Le handicap ne devrait pas être une source de honte, mais une source de fierté. Stephen Hawking, né le 8 janvier 1942 et mort le 14 mars 2018. Physicien, théoricien et cosmologiste britannique, il avait contacté la maladie de Charcot à 20 ans. En 1974, Hawking est l'un des plus jeunes membres élus de la Société royale de Londres. Pour l'amélioration des connaissances naturelles, en 1982, il fait commandeur de l'ordre de l'Empire britannique. En 1989, il devient compagnon d'honneur pour les services rendus au pays dans le domaine des sciences. Hawking est également membre du conseil des auteurs du bulletin of the Atomic Scientist. Notre devise, tous ensemble pour la réussite, tous concernés par l'avenir de nos enfants, de nos ados.
Chers auditeurs, nous sommes le 25 novembre 2023. Bienvenue sur Radio Valois-Mulcien dans l'émission Pédagorando, animée par l'association Projet Action 60, en partenariat avec Agir ABCD et Énergie Jeune. Ces associations sont représentées par nos fidèles chroniqueurs. Bonjour, chers chroniqueurs.
Bonjour.
Notre thème du jour, école inclusive. Pour cela, nous recevons Hélène Hernandez de l'association des parents d'élèves PEPS.
Bonjour.
Françoise Zollet, présidente de l'association 70.
Bonjour.
Avant que Sylvie nous présente le thème du mois, on va demander à nos deux invités de se présenter.
Qui commence?
Moi, si vous voulez. Donc, je suis Françoise Zollet, présidente de l'association 70, association qui est la seule de l'Oise et qui vient en aide aux familles et qui accompagne les enfants et les familles dans leur parcours de santé et surtout dans leur parcours scolaire et administratif. Les quatre missions de l'association sont donc un accompagnement des enfants et des familles. La deuxième mission est l'organisation de la journée 10 qui a lieu une fois par an en octobre. La troisième étant une aide au dossier administratif MDPH ou au recours gracieux si refus. Et la dernière étant du prêt de matériel qui peut aider, je veux dire, certaines familles, je veux dire, à utiliser du matériel numérique qu'ils n'ont pas forcément les moyens de financer. Nous organisons aussi des ateliers 10 dans certains centres de l'Oise, donc à Beauvais, à Compiègne. On a plusieurs partenariats. Et là, actuellement, on en a 12 pour l'année 2024. Voilà.
D'accord, donc tu es bien occupée. Mais oui. Avant d'être donc présidente de l'association 10, tu as fait quoi auparavant, Françoise?
J'étais enseignante spécialisée. Je travaillais dans un centre d'hôpital de jour qui s'appelait Bois-Laris. Je dis qu'il s'appelait parce que pour le moment, il est fermé.
On va en parler un peu plus tard d'ailleurs.
Et je travaillais donc en équipe pluridisciplinaire avec les médecins et les rééducateurs. Et j'avais des enfants qui avaient des troubles 10 ou différentes pathologies.
D'accord, merci. Hélène?
Alors, Hélène Hernandez, présidente d'honneur de la PEP du lycée Jean Monnet. Je dis bien d'honneur parce que je n'ai plus d'enfants scolarisés au lycée. J'ai été présidente pendant plusieurs années quand mes enfants étaient scolarisés au lycée. Et l'équipe a décidé de me garder pour plein de projets associatifs au sein de notre association. Donc à la base, on s'occupe de prêter les prêts de livres au lycée, à nos lycéens. On représente les parents dans les différents conseils et administrations. Et depuis 3 ans, on a un local sur Crépy et on envisage de faire plein de petites choses pour nos lycéens, mais également tous les élèves de Crépy des environs, parce que ces élèves-là deviendront un jour des lycéens.
Merci beaucoup.
Le thème du mois, c'est...
Alors, le thème. Alors, l'école est un lieu d'apprentissage pour tous. On y dispense un enseignement collectif général dès l'âge de 3 ans. L'instruction est obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. C'est un droit à l'éducation. Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. C'est un droit humain fondamental. Alors pourquoi parler d'école inclusive? Qu'est-ce que l'école inclusive? Où s'informer? Comment aider les parents? Nous allons essayer d'y répondre. Mais pour l'instant, on va passer au petit billet de l'humour.
Oui, un petit peu d'humour. Un jeune homme, il est humoriste, entre en scène, il est haut comme 3 pommes, le corps vrillé sur lui-même, il annonce à son public. Je tiens à préciser que je peux rire de moi-même, c'est de l'autodérision. Par contre, Si vous rigolez de moi, cela se l'appelle de la discrimination envers une personne handicapée. C'est passible de 3 ans de prison et 45 000 francs d'amende. Je prends évidemment tous les moyens de paiement. Petite morale, la nature fait des différences, la société en fait des inégalités.
Oh, c'est très joli, c'est très bien dit. Super. Il y a quelqu'un qui veut réagir sur ce petit billet d'humour ?
Je vais peut-être dire que l'inégalité, c'est une chose, mais ce qu'il faut rechercher, c'est surtout l'équité, c'est-à-dire reconnaître les compétences de chacun.
Oui, c'est vrai. Alors, je continue. Alors, l'école inclusive doit n'exclure personne, on est d'accord avec ça. Elle doit assurer une scolarisation de qualité en prenant compte des besoins éducatifs de chacun reconnu ou non en situation de handicap. Donc, on va faire un petit topo de tout ça. En juin 1975, une loi d'orientation en faveur des personnes ayant un handicap voit le jour. Les enfants et adolescents sont soumis à une obligation éducative, soit en milieu ordinaire, soit dans des établissements spécialisés. En février 2005, pour l'égalité des droits et des chances pour les personnes ayant un handicap, pose comme droit fondamental le droit à l'éducation pour tous. Cette loi a par ailleurs été renforcée par la circulaire de rentrée 2019 pour une école inclusive qui dresse les points essentiels à mettre en œuvre afin de ne laisser aucun élève au bord du chemin, avec notamment la création d'un service départemental école inclusive. Et on va tout de suite parler de ce département école inclusive. Je vais vous poser la question à toutes les deux. Avez-vous déjà contacté le service départemental École Inclusive ? Connaissez-vous ce service ? Avez-vous eu l'occasion de le contacter ? Est-ce que vous étiez au courant que ça existait ? Non ?
Moi, non. Moi, oui. Moi, oui, parce que l'association a un partenariat avec l'atelier Canopée. Et l'atelier Canopée, bien évidemment, a mis en place un lab inclusif avec du matériel qui permet d'aider et de mettre en place des compensations pour les élèves et les enfants en difficulté scolaire.
D'accord. Tu peux rappeler ce que c'est Canopée ? Parce que ça fait partie de l'éducation nationale.
Oui. Canopée, c'est un établissement, qui apporte tout renseignement, on va dire, sur l'enseignement. Donc, il y a une bibliothèque. Il y a des ateliers qui sont mis en place, des informations, des réunions. Et c'est vrai que ça concerne essentiellement les enseignants. Ils essayent de faire une partie pour les familles, mais ça concerne quand même essentiellement les enseignants.
Les enseignants.
Il y a beaucoup de ressources.
Il y a beaucoup de ressources, oui. Il y a beaucoup de ressources, on va dire, sur place, puisque ça se situe, le lab inclusif Canopée se situe à Beauvais, mais il y a aussi beaucoup d'informations qu'on peut récupérer, autant sur les pages des réseaux sociaux que sur le site.
Sur le site de Canopée. Hein, oui, c'est bien fait. Ouais. Alors, moi, j'ai essayé de les joindre. Donc, pour l'Oise, nous pouvons joindre cette cellule d'accueil et d'écoute de la Direction des services départementaux de l'Éducation nationale de l'Oise au numéro suivant, 03 44 06 45 45. Cette cellule est destinée aux parents d'enfants en situation d'handicap, mais ouverte aussi aux professeurs. Une personne des services de l'Éducation nationale est là pour vous renseigner immédiatement, ou sinon, elle prendra directement les informations fournies en remplissant une fiche qu'elle fera suivre à la direction au niveau de l'Oise ou au niveau national si on n'arrive pas à répondre aux demandes des parents. Et attention, cette cellule est à disposition de juin à octobre. Donc j'ai eu de la chance parce que moi je l'ai appelée avant-hier et je l'ai eu au téléphone. Alors c'est ouvert de juin à octobre, mais c'est fermé effectivement pendant les vacances estivales. Donc ça laisse très peu de temps. Par contre, elle m'a dit qu'elle avait beaucoup de travail, il y avait beaucoup de dossiers en cours, donc j'ai pas pu discuter plus longtemps avec elle, ce qui était un petit peu dommage parce que j'aurais voulu savoir exactement comment fonctionnait ceci. Alors il y a une autre possibilité aussi.
Attends,
je crois.
Deux secondes. Vas-y, peux-tu répéter le numéro de téléphone parce que tu as parlé tellement vite que si quelqu'un a voulu prendre le numéro, il en est incapable.
Je le mettrai sur internet. 03 44 06 45 45. Tout le monde a noté ? Oui. Et on peut aussi avoir des informations au niveau aussi de la somme, en fin de compte. Hein. Donc là, il y a un numéro spécial information école inclusive. Alors, je vais aller doucement. 0 805 805 110. C'est un numéro vert unique qui accompagne donc les parents pour les enfants en situation de handicap pour donc rechercher des informations. Et à la rentrée 2023, il y avait plus de 436 000 élèves en situation de handicap handicap accueillis dans les établissements scolaires, 3,6% des élèves en situation de handicap dans les écoles et établissements scolaires, plus de 132 000 accompagnants d'élèves en situation de handicap et plus de 164 000 livrets de parcours inclusifs. Donc on voit vraiment qu'effectivement il y a beaucoup de demandes à ce niveau-là. Est-ce que quelqu'un voulait rajouter quelque chose ?
Je voudrais juste savoir comment ils ont fait pour avoir ces nombres-là.
Alors là,
qu'est-ce qu'ils mettent, je veux dire, dans leurs statistiques comme enfants en situation de handicap ? Est-ce que ce sont les handicaps moteurs, les handicaps sensoriels, les handicaps visibles, invisibles ?
Je pense que c'est tout. Ils englobent tout. Ils font pas de réelle différence. Je pense que là, c'est vraiment des statistiques avec tous les enfants ayant un handicap.
Ça veut dire tous les enfants qui ont un dossier MDPH.
Voilà.
Donc, pas les autres. Parce qu'il y a des enfants qui sont en situation de handicap et
qui n'ont pas de dossier
MDPH.
Tout à fait. Tu as raison.
Voilà.
Alors, on continue. Alors, justement, pour obtenir des informations pour des besoins spécifiques d'un enfant, où s'informer ? Le 14 octobre dernier, donc je me retourne là vers Françoise, à Clermont, il y a eu la 17e journée nationale des 10 qui a connu un franc succès auprès des parents souvent perdus au quotidien face à un enfant ayant un handicap. Et je crois qu'Hélène, tu y étais aussi,
oui.
Et Jackie aussi. Donc, qui commence ? Françoise ? Vas-y.
Que dire ? Faire un bilan ?
Ben, ça serait sympa de faire un bilan, oui.
Donc, c'est vrai que pour la 17e journée, je pense que ça a été une journée exceptionnelle. D'abord, en général, j'essaye de trouver des intervenants, je veux dire, qui sont de haute qualité, qui peuvent apporter, je veux dire, des informations très intéressantes. Et c'est vrai que le docteur Vera, qui était le conférencier, a apporté beaucoup de choses.
C'était quoi le thème ?
Le thème, c'était les troubles de l'attention et les 10.
D'accord. Donc, le docteur Vera est spécialisé...
Le docteur Vera est pédopsychiatre et spécialisé dans les troubles de l'attention. Mm-hmm. Et il a ouvert, il y a très, très peu de temps, un centre de l'attention à Paris.
D'accord.
Voilà. Bon, ça, c'était pour la conférence. La deuxième chose, c'est que j'invite un maximum de personnes qui peuvent apporter des aides, je veux dire, autant sur le plan... outils, c'est-à-dire éditeurs spécialisés, outils numériques, les lampes pour dyslexiques, un apport des associations qui viennent en aide aussi aux enfants et aux familles, comme l'association d'Hélène, et aussi des professionnels qui assurent plus ou moins le bien-être et on va dire une compensation au manque de professionnels actuels de rééducation. Donc, ça peut être des sophrologues, des orthopédagogues, voilà. Je veux dire, des personnes qui essayent d'assurer un bien-être et qui permettent de ne pas perdre confiance en soi quand on est en échec scolaire. Bon, là, c'est vite dit, c'est un peu caricaturé. On a eu une journée exceptionnelle, on a accueilli 547 personnes. Donc, c'est... Par rapport aux 17 journées, c'est un nombre très, très intéressant.
Ah oui,
bon, moi, ce qui me fait un peu peur, c'est que ça veut dire qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de besoins s'il y a 547 personnes qui se déplacent. Donc, c'est un plus d'un côté parce que bon, on commence à être connu, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans. Mais... c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de besoins. Il y a encore pas mal de parents qui sont très malheureux et leurs enfants aussi.
Aussi.
Mmh. Et les besoins principaux, c'était lesquels ?
Alors, les besoins principaux, on fait des statistiques sur les préinscriptions. Mmh. Les besoins principaux sont des recherches professionnelles, ce qui est un problème général, je veux dire, en France. Donc, recherche de médecins généralistes ou agréés pour signer les dossiers. Ça, c'est un problème, un très gros problème. Il y a des médecins agréés éducation nationale pour signer les dossiers, par exemple MDPH ou les PAP, projets d'accompagnement personnalisé. C'est un problème. Le deuxième problème, c'est une recherche de professionnels bilan orthophonique et prise en charge orthophonique ou ergothérapeutique, et psychomote ou autre. Ça, c'est un très gros problème pour les parents. Il y en a qui sont prêts à aller... en Belgique, à Paris, ils sont prêts à sillonner toute la France pour trouver quelqu'un.
Et souvent, ces examens-là, comme les bilans et tout ça, ce ne sont pas remboursés. Si, quand même,
non,
il y a une partie.
La seule chose qui est remboursée, c'est l'orthophonie.
D'accord.
Autant le bilan que la prise en charge, puisque c'est quelque chose qui a été qui est remboursé par la sécurité sociale.
Ce qui est dommage,
les bilans d'ergothérapie, ouais, et les prises en charge en ergothérapie commencent à être remboursées, mais ça fait partie de demandes exceptionnelles. C'est pas systématique. Et le reste n'est pas remboursé. Faut savoir que parfois ils font un bilan neuropsychologique. Ça a un coût important, 300 à 600 euros.
Mais donc, pour les parents, c'est
donc, il y a des
compliqué.
Parents qui arrêtent, quoi. Je veux dire, qui baissent les bras, pas parce qu'ils ne veulent pas, hein, parce qu'ils n'ont pas les moyens.
Ils n'ont pas les moyens.
Et il n'y a pas de prise en charge. Il faut savoir quand même que, avec demande exceptionnelle, on peut demander à la Sécurité sociale, on peut demander à son entreprise. Il y a des entreprises qui aident les familles. Et on peut demander aussi à faire des demandes exceptionnel à sa mutuelle. Parfois, ça fonctionne. Mais c'est vrai que c'est un gros problème. Donc, et l'autre question que se posent beaucoup les parents, c'est l'aide aux devoirs, c'est-à-dire le travail à la maison que les parents sont obligés d'accomplir quand l'enfant a fait sa journée scolaire.
Scolaire, c'est ça.
Donc, tout ce qui est devoir à la maison, c'est très, très problématique pour les parents. Ça, ce sont les deux, on va dire, demandes des parents, là,
des parents
actuels.
Je me souviens de l'an dernier. Là.
Tu parles dans le micro, s'il te plaît. Là.
L'an dernier, la conférencière que tu avais invitée, qui avait bien mis justement le doigt dessus en disant que, en fait, on sollicite beaucoup les enfants. J'avais trouvé son intervention très, très intéressante parce que les enseignants, parfois, ne se rendent pas compte de ce qu'on leur demande, en fait, ce qu'on demande aux parents en plus et à l'enfant. Je me rappelle de cette conférencière qui avait dit, un enfant dyslexique, du matin où il se lève jusqu'au soir où il se couche, il ne s'arrête 2 minutes. Et ce qui m'avait frappé, c'est on va prendre une classe en primaire, quand la maîtresse, la professeure des écoles, pardon, dit on va passer une autre activité. Les enfants qui n'ont pas de soucis de 10, on va dire, ou autres, vont poser, prendre 2-3 minutes de pause. Un enfant dyslexique va commencer à écrire, continuer à écrire. Ça fait que le gamin, il se repose jamais, en fait. Et on leur demande des devoirs. Et moi, pour l'avoir vécu par le bien de mon neveu, c'est que j'ai vu ma belle-sœur dans des états... parce que passait 2-3 heures pour faire apprendre à son fils des mots en dictée, par exemple. Et le lendemain, dès que le gamin faisait la dictée...
Il ne se rappelait plus.
Et après, où on est bienveillant en face, quand on enseigne en se disant... L'enfant a des troubles, donc. Mais parfois, ce n'est pas toujours le cas, il faut le reconnaître. Donc, je pense qu'il faut... Et c'est pour ça que l'association de Françoise, c'est quelque chose de génial. Et ces journées-là permettent de prendre conscience. Mais il faudrait qu'il y ait un petit peu plus de monde, peut-être, du côté du corps enseignant, je ne sais pas.
Il y a eu combien de parents qui sont venus le 17?
70%.
70%
de 540 personnes.
D'accord.
Et à part c'est toujours la majorité. Les années précédentes, c'était plutôt un tiers. Donc un tiers d'enseignants, un tiers de professionnels,
professeurs.
Oui, de professeurs des écoles. Là, on a eu très très peu d'enseignants.
Il y en a eu combien?
Très peu.
Très peu. Bon, voilà. Ça sera très peu pour tout le monde. Voilà.
Très peu, et c'est bien dommage. C'est vrai qu'avant, on avait plus ou moins, recours à ce qui s'appelait une journée pédagogique, c'est-à-dire qui faisait partie de la formation des enseignants.
Qui a été retirée.
Et qui était obligatoire. Maintenant, ça n'existe plus.
C'est dommage.
Donc, les enseignants qui se déplacent à la journée 10,
c'est sur leur temps.
Volonté. Voilà.
D'accord.
Est-ce qu'il y a une journée 10 nationale?
Oui. À Paris, tous les ans, qui est organisée par la Fédération nationale, la FF10.
Et là aussi, c'est un franc succès. On y avait été une fois avec Françoise, il y a très longtemps. C'est un franc succès.
Ça attire beaucoup de monde, mais c'est vrai qu'ils ont beaucoup de moyens par rapport à cette association de l'Oise.
Oh non, je pense que j'y vais, ça fait plusieurs années que je me déplace aux journées des 10 et c'est toujours des journées de qualité avec des professionnels. Vraiment, on apprend tous les ans, j'apprends de nouvelles choses parce qu'elles varient un petit peu les plaisirs, allons-nous dire. Ou voilà. Et c'est quelqu'un, il faut savoir que pour organiser ce genre de journée, Il faut de l'énergie, il faut du temps, et il faut franchement au chapeau bas à
Françoise. Oui, parce que c'est très compliqué. Ouais. Oui. Ouais, c'est, vrai, c'est énormément de travail. Ouais. Nous, on l'a déjà vu.
Non, c'est
vrai.
Mais de toute façon, je le fais parce que je trouve que c'est une cause juste.
Oui. Oui.
J'ai travaillé en tant qu'enseignante avec des enfants, je veux dire, avec des troubles 10 ou des difficultés scolaires qui ne sont pas forcément diagnostiquées 10. Il y a des tas de choses qu'on peut faire, même si on n'a pas le diagnostic.
Ouais. Oui, c'est vrai.
Je veux dire, le tout est d'accepter la différence et d'accepter et de vouloir que les enfants, accèdent aux apprentissages. Et de respecter, je veux dire, le rythme des enfants.
C'est ça.
Donc,
Le rythme des enfants,
Monsieur. Oui, oui, oui.
Non, non, c'est vrai, on ne l'entend pas assez, ça, le respecter le rythme des enfants, malheureusement.
Ben oui, je veux dire, il y a des tas d'outils. Comme disait Hélène, les enfants 10 ont besoin, sont fatigables, ils sont très lents. Donc, c'est vrai que quand l'enseignant passe à une autre activité, ben, eux, ils n'ont pas eu le temps de finir la première, alors qu'il faut déjà s'engager dans la seconde. Donc, c'est vrai que ce n'est pas simple pour eux. Et parfois, enlever une question, ça suffit pour qu'ils aient leurs 2 minutes de pause. Mm.
Jackie, toi, tu as été le 17 octobre à cette journée 10. Qu'est-ce que tu en penses ?
J'en pense déjà que c'est pour toute l'équipe et surtout pour François, c'est vraiment un gros travail.
Un gros travail.
C'est vraiment un gros travail. Et heureusement qu'il y a quand même une équipe, enfin, il y a des gens vraiment attentionnés, enfin, qui ont envie de toujours participer, de travailler, enfin, de mettre en place ça.
D'ailleurs, c'est toi qui étais à l'entrée.
À l'accueil, oui. À l'accueil, mais et c'est vrai qu'à chaque fois, même les gens qui arrivent, enfin, c'est vraiment quelque chose de convivial et dans la bonne humeur, enfin, il n'y a pas de choses, voilà. Et les gens ont vraiment cette envie heureusement qu'il y a cette journée, parce que de trouver des informations, d'aller voir notamment la personne qui était là, moi je l'écoutais un peu de loin, mais il y avait un silence complet et les gens écoutaient vraiment cette personne-là, qui était d'ailleurs vraiment, moi, même si on avait du mal de temps en temps à l'écouter, mais il avait l'air d'avoir une écoute vraiment très très intéressante. Donc, et puis ben, quand on a vu le nombre de personnes...
Oui, là vous avez été...
Ce qui m'a un peu étonné, les années auparavant, le matin on avait un grand nombre de personnes, et l'après-midi ça se calmait un petit peu. Et là, ben, là il y a toujours une continuité dans même l'après-midi. Donc là c'est quand même quelque chose d'étonnant.
Et parce que le matin, il y a la conférence et l'après-midi,
c'est des stands, c'est de l'information, ouais, c'est des choses.
Mais
là, c'était toujours continuel, il y a toujours eu du passage. Donc, on était étonnés avec les personnes qui étaient avec moi. C'est vraiment quelque chose de positif aussi de ce côté-là, même l'après-midi.
Et tu as eu des retours depuis, non ? Pas du tout.
J'ai eu des retours. J'ai eu pas mal de demandes, je vais dire, du diaporama et puis... Et puis de la vidéo qui a été faite, parce que il y a eu une vidéo qui a été faite et qui a été, on va dire, qui a fait partie d'un montage avec la présentation du docteur Vera. Donc ça a été une grosse demande, parce que c'est vrai que bon, l'inconvénient un peu de cette journée, c'est que quand on est dans une grande salle et qu'il y a une conférence et des stands en même temps, c'est assez, on va dire, bruyant. Donc c'est difficile de faire... De faire quelque chose, je veux dire, de bien calme et de bien construit. C'est quelque chose qu'on va essayer de revoir. L'autre demande, ça a été une demande très pratique, très concrète, très pédagogique. J'ai reçu 30 mails. J'ai renvoyé, je veux dire, des documents très pédagogiques, hein, très scolaires. C'est un peu des trucs et astuces, quoi, je veux dire, pour aider les enfants dans leurs apprentissages et dans leurs devoirs.
C'est les parents qui te demandaient, c'est ça ?
Les parents, oui, beaucoup de parents.
Beaucoup de parents, oui.
Beaucoup de parents, mais aussi des enseignants qui ne sont pas forcément venus, mais qui m'envoient des mails pour demander de l'aide.
OK. Au niveau de la PEP, Hélène, êtes-vous sollicitée par des parents pour obtenir des informations ou préparer un dossier MDPH, donc pour la maison départementale, des personnes ayant un handicap ?
Alors, jusque maintenant, non, parce que comme on est l'association du lycée, donc,
En général,
les dossiers sont déjà faits en amont. Néanmoins, j'ai eu quelqu'un qui m'a demandé, là, en début d'année, parce que je la connaissais, mais c'est pas notre...
priorité.
Alors, c'est pas notre priorité,
mais...
Je pense qu'avec notre projet de bibliothèque, justement, on pourra peut-être avoir d'autres demandes, mais jusqu'alors, le lycée, ils ont déjà, en principe, un dossier MDPH.
En principe.
En principe.
Oui. Françoise, comment on prépare un dossier MDPH pour faire une demande de prise en charge pour son enfant et puis mettre un plan d'accompagnement?
C'est-à-dire qu'il y a quand même un minimum de parcours. On ne va pas direct, je veux dire, au dossier MDPH, je veux dire, sauf si c'est un enfant vraiment qui est en très, très grosse difficulté et qu'on demande directement le dossier MDPH. Bon, si la demande est directement MDPH, il faut faire un dossier, il faut faire un certificat médical par un médecin, il faut faire des bilans et il faut faire une demande. Bon, c'est un dossier qui est assez lourd.
Perturbant.
Perturbant, oui.
Parce que
lourd et pas facile à faire parce que, par exemple, dans le dossier MDPH, vous avez un projet de vie à rédiger. Alors, quand ça concerne un enfant qui a 7, 8, 9 ans, pour rédiger un projet de vie, c'est pas simple.
J'ai pu parler avec une représentante de la MDPH qui était à ta journée et qui, elle, justement... Il n'y a pas longtemps qu'elle est arrivée et elle était surprise de voir que le dossier MDPH, c'était le même pour tout le monde. Adulte, enfant, il faut trouver sa page. Elle aimerait bien que ce soit séparé. Un dossier MDPH pour des enfants ou les adultes.
C'est très différent.
Parce que c'est le même dossier que vous recevez et vous devez... je suis où, c'est quoi, c'est comment. Il y a beau y avoir des couleurs différentes, mais... Voilà.
Oui, tout à fait. C'est le même dossier jusqu'à, on va dire, la fin de l'âge, on va dire, scolaire obligatoire, c'est-à-dire jusqu'à 16 ans. Après, il faut refaire un autre dossier si on reste, je veux dire, en situation de handicap. Il faut faire un autre dossier et demander une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, ce qui est carrément autre chose, pour rentrer dans l'emploi et dans la vie sociale, quoi. Mais sinon, si on passe par le premier dossier, la première aide qui peut être apporté au niveau des écoles, ça s'appelle un PPRE, c'est très interne à l'école. Donc ce sont les enseignants qui considèrent que les enfants ont des difficultés scolaires et qu'on va aménager la scolarité à l'intérieur de l'école. Ça reste intérieur à l'école. C'est un projet personnalisé de réussite éducative.
Donc celui-ci, il est fait très rapidement.
Voilà. Celui-ci peut être fait très rapidement dans l'école, avec l'enseignant, avec l'équipe éducative et autres. Le deuxième, c'est ce qui s'appelle un PAP, c'est-à-dire un projet d'accompagnement personnalisé. Et là, je veux dire, ça peut être demandé ou par l'enseignant, ou par l'équipe pédagogique, ou par la famille. Et là, c'est une liste, je veux dire, là, c'est la même chose. Il faut une reconnaissance de difficulté par le médecin. Il faut que ça soit signé par un médecin. Donc, comme je disais au départ, il y a des soucis pour faire signer le dossier. Et si le dossier n'est pas signé, il ne peut pas être validé. Donc, c'est assez problématique. Mais là, c'est une liste d'accompagnement ou d'aménagement scolaire. Donc, ça peut être...
Donne-nous quelques exemples.
Ça peut être réduire un exercice. Ça peut être aller 2 heures dans une autre classe pour une matière qui est plus difficile. Ça peut être des photocopies. Ça peut être l'utilisation d'une réglette scanner pour ne pas copier les cours. Enfin, je veux dire, il y a des tas d'aménagements scolaires comme ça. Ça peut être laisser, je veux dire, un mémo conjugaison ou table de multiplication ou autre aux enfants, ne pas les obliger à apprendre par cœur des poésies, des tables de multiplication, des règles de conjugaison.
D'accord. Et après, j'ai vu, PAI et PPS, c'est quoi ça, là?
Alors, le PAI, ce sont pour les enfants qui ont besoin de soins dans le milieu scolaire. Donc, ça peut être... c'est souvent des pathologies, hein. Ça peut être le diabète, ça peut être... ça dépend s'ils ont besoin de soins infirmiers, ça peut être, je veux dire, des soins
orthopédiques. Un cachet à prendre à heure régulière.
Voilà.
Il y a un critère médical, il y a une ordonnance avec un critère médical. Et le PPS, c'est le dossier qu'il faut faire quand il y a un dossier MDPH. Donc celui-là, c'est projet personnalisé de scolarisation.
Donc celui qui a des allergies, excuse-moi,
allergies, c'est PAI.
C'est PAI aussi, hein. D'accord.
Voilà. Tout ce qui a un critère, on va dire, médical qui demande un suivi médical et éventuellement, je veux dire, la venue d'une infirmière ou une prise de médicament, pas forcément la venue d'une infirmière, mais je veux dire, un enfant qui a besoin de prendre un traitement à telle heure ou qui a besoin, je veux dire, d'un soin régulier pendant les horaires scolaires.
Ben là, c'est pareil, c'est une infirmière qui donne le cachet en général, hein. Voilà, oui. C'est pas le professeur.
Après, non. Après, ça dépend. Ça peut être une organisation différente avec la famille, parce que dans les écoles, on va dire, de premier cycle,
oui,
les écoles primaires,
il n'y a pas
d'infirmière.
Non. C'est pas comme au collège ou au lycée.
Au collège ou au lycée, oui, il y a une infirmière.
Et encore,
pas dans tous les collèges, mais dans tous les lycées.
Et le PPS ?
Le PPS, c'est le projet personnalisé de scolarisation qu'il faut remplir pour avoir un dossier MDPH. Donc, c'est une reconnaissance de handicap qui est calculée en pourcentage.
En pourcentage, oui.
Situation de handicap calculée en pourcentage. Suivant le pourcentage qui est accepté à MDPH, le dossier est proposé, ça passe en commission. Suivant le pourcentage qui est accepté par la MDPH, vous pouvez avoir droit à une AESH, c'est-à-dire une aide à la scolarisation, plus ou moins d'heures, plus ou moins mutualisées, plus ou moins... Bon.
C'est compliqué.
C'est compliqué, on ne va pas rentrer dans les détails. Ça donne aussi une allocation financière, donc ça permet, je veux dire, aux parents, je veux dire, de payer les rééducateurs, de payer du matériel s'il y a besoin. Et ça donne aussi des aménagements scolaires que là, on est obligé d'appliquer. Parce qu'il faut faire une différence entre le PAP et le PPS. Le PAP, il y a des aménagements scolaires, mais il n'y a aucun recours pour les familles au niveau du respect.
Mais ça sera au bon vouloir du professeur.
Voilà.
C'est ce que disait la conférence l'an dernier.
Alors que le PPS, c'est écrit noir sur blanc, c'est validé par la MDPH. Et là, il y a des recours. Donc, si ça n'est pas mis en place, il y a des recours.
Alors, justement, l'inclusion scolaire est un atout donc pour chaque enfant, mais les moyens sont-ils au rendez-vous ? Chaque année, les accompagnants d'élèves en situation de handicap, donc les AESH, les psychologues de l'éducation nationale sont en nombre insuffisant. Quels sont les processus mis en place pour remédier à ce manque d'accompagnement ? Est-ce que l'informatique, là, va jouer le rôle de remplaçant ou pas ? Dans ce cas-là ?
Non.
Oui, parce qu'il y a toujours, il y a toujours des aides, ce qu'on appelle humaines, donc j'ai horreur de ce mot aide humaine, donc les AESH, et il y a l'aide matérielle.
Alors, l'aide informatique, c'est ce que disait Françoise tout à l'heure. La MDPH va dire, votre enfant a droit à un ordinateur, d'accord, mais qui va lui apprendre à manipuler un ordinateur?
Alors avant, il y avait un ergothérapeute.
Et l'ergothérapeute. Mais il est payant, l'ergothérapeute. Il y a des familles qui ne peuvent pas.
Alors avant, alors c'était comme ça il y a quelques années, il y avait un ergothérapeute à l'éducation nationale qui, justement, était là pour apprendre les premiers pas aux enfants. A priori, est-ce qu'il est toujours là ou pas?
Non, il n'y a pas d'ergothérapeute dans les écoles.
Alors, effectivement...
Il y a des ergothérapeutes qui travaillent en libéral et qui, à la demande... peuvent venir aider un groupe d'enfants.
Alors justement, tout à l'heure, tu parlais...
Mais c'est très spécifique, je veux dire, au principal de collège.
J'ai une question à te poser.
Dans le micro, Hélène.
Pardon, j'ai une question à te poser. Les AESH qu'on met pour aider les enfants n'ont aucune formation.
Normalement, si. J'aime bien le normalement, si.
Si,
c'est une petite formation. Je croyais qu'il y avait des écoles qui devaient ouvrir justement une formation justement pour les AESH sur un an ou... Non ?
C'est des enfants quand même avec des besoins spécifiques.
Oui, puis est-ce qu'ils ont la pédagogie pour ?
Déjà, ils se retrouvent face à des enfants, qu'est-ce que je fais ? Comment on leur donne ? On leur donne généralement ce que tu disais ou... Alors l'enfant, moi j'en ai vu parce que j'ai enseigné à un moment et quand on nous donnait ce que les orthophonistes nous donnent, des fois vous vous dites mais c'est pas forcément applicable en fait. Donc c'est un peu tout ça, c'est un peu la complexité en fait.
C'est la complexité, mais je pense quand même...
Ça aide, je dis pas le contraire.
Les AESH,
mais ils sont en souffrance aussi, les
AESH travaillent aussi avec les professeurs. Il y a quand même un lien.
Ils parlent bien leur nom d'accompagnement.
Oui, voilà, c'est ça.
Oui, normalement, c'est un accompagnement. Hein. Ils ne sont pas là pour remplacer l'enseignant.
Ah non, c'est ça. Non, tout à fait.
Pas du tout.
Moi, je vous parle niveau... C'est vraiment comment il peut aider l'enfant concrètement, en fait. C'est ça.
On va faire un petit arrêt.
Mon handicap, c'est pas mes jambes, même si je boite, même si elles tremblent. Et ça n'est pas mon corps trop lourd qui bouge pas quand d'autres courent. Mon handicap, c'est pas mes yeux qui ne voient pas ton beau ciel bleu. C'est pas les murs de mon silence, c'est pas mes journées d'espérance. Mon handicap, c'est ton cerveau. Mon handicap, ce sont tes mots comme différence, comme anormal. Mon handicap, c'est ton cerveau. Mon handicap, ce sont tes mots, c'est ce que tu penses et qui me fait mal. Mon handicap, c'est pas de ma faute, pas mon fauteuil, ma chaise haute. C'est pas ma tête quand elle délire, c'est pas ce que je peux pas dire. Mon handicap, c'est pas mes doigts qui n'écrivent plus, qui touchent pas. C'est pas ma faim ni mon salaire, et pas non plus de quoi j'ai l'air. Mon handicap, c'est ton cerveau. Mon handicap, ce sont tes mots comme différence, comme anormal. Mon handicap, c'est ton cerveau. Mon handicap, ce sont tes mots, c'est ce que tu penses et qui me fait mal. Mon handicap, c'est pas l'envie d'avoir un jour voulu ta vie. Et ça n'est surtout pas mon monde qui ne sera jamais ton monde. Mon handicap, c'est ton cerveau. Mon handicap, ce sont tes mots comme différence, comme anormal. Mon handicap, c'est ton cerveau. Mon handicap, ce sont tes mots, c'est ce que tu penses et qui fait mal, 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 mal. Mon handicap, c'est ton cerveau. Mon handicap, ce sont tes mots, c'est ce que tu penses et qui me fait mal, qui me fait mal.
Notre intermède musical, Mon handicap, par Grégoire. Notre thème du jour, école inclusive. Pour cela, nous recevons Hélène Hernandez de l'association des parents d'élèves PEP et Françoise Delay, présidente de l'association 70. On passe à Jackie.
Allez, le petit billet d'humeur. Il est comment aujourd'hui? Avec le soleil ou pas?
Il est un peu plus long. Enfin, j'ai trouvé une... Alors, par les quelques phrases là... La scolarité est un droit pour tous. L'école inclusive, c'est aussi une démarche qui peut être positive à condition que tout soit réglé. Et j'ai trouvé aussi dans les différents sur Internet, puisqu'il y a aussi des billets d'humeur sur Internet, de toutes sortes. De toutes sortes. Alors des billets d'humeur, bon, qui sont, des fois, faut faire. Mais j'ai trouvé un billet d'humeur sur justement une personne, une maman, qui a, concernant son enfant qui a un handicap. Alors, elle n'a pas mis spécialement quel handicap, elle a mis un handicap tout court. Mais elle a relaté un peu son petit parcours et ça note bien justement la problématique de ce sujet. Cette personne-là, cette maman, elle a écouté depuis 4 ans des tonnes de remarques. Elle a pris en réel pas mal de remarques et notamment des remarques qui sont les plus blessantes les unes que les autres. Alors, de la part de toutes sortes de personnes, de toutes sortes de structures. Et donc ils peuvent être blessantes hein. Concernant son enfant, il ralentit la classe. J'espère qu'un jour il trouvera sa place. Que fait-il dans cette classe?
C'est ça.
Je suis pas éducateur spécialisé. Donc et depuis 4 ans, bon, elle est au rythme des consultations, des réunions pédagogiques, des notifications de la MDPH, des PPS, enfin des différentes choses. En recherche justement avec les différentes structures des AVS, AESH. Des remarques aussi, enfin des choses qu'elle s'est aperçues concernant les AESH et AVS, des emplois qui s'arrêtent du jour au lendemain, hein, parce que c'est des emplois précaires. Ou alors des contrats qui, enfin des contrats qui arrivent de Pôle emploi et qui malheureusement, bah, ces gens-là de Pôle emploi, comme on disait tout à l'heure, sont plus ou moins formés. Donc ils s'arrêtent brutalement parce que leur formation, ils se sont aperçus que leur formation, ça leur convient pas du tout, quoi. Et donc là, ça veut dire qu'elle est confrontée à des tonnes de choix sur ces choses-là. Et après, bah, c'est la difficulté aussi de rechercher ce qu'on disait tout à l'heure, bah, les différentes structures qui peuvent être, qui ont pu être adéquates par rapport à son enfant, donc les CLIS, les ULIS, les IME, et, donc toutes sortes de choses. Mais elle s'est aperçue que bah, dans ces structures-là, enfin, dans le peu de structures qu'elle a vues, il y avait très peu de possibilités de structures, pas assez d'accompagnement, pas assez de personnes motivées, avec des salaires ridicules. Et aussi, le point positif, c'est qu'en contrepartie, il y avait des associations qui essayaient de pallier ces insuffisances et de, comme de Françoise, de donner un maximum d'informations sur ces choses-là. Donc, bah, le résumé, c'est que bah, dans toutes ces choses-là, l'inclusion, toute cette démarche peut être positive à condition d'avoir tous les moyens qui peuvent être en sa possession.
Pourquoi il manque des moyens ? Non. Je ne comprends pas, pourtant c'est l'école du bien-être.
Oui, c'est ça, donc, bon. Voilà. Donc ça c'est une des biais d'humeur d'une personne sur Internet.
Très bien. Alors dans nos établissements scolaires, il existe des dispositifs hors classe ordinaire pouvant accueillir de façon inclusive les élèves à besoins spécifiques. ULIS, les unités d'enseignement maternel autisme et même en élémentaire. Alors, les parents trouvent-ils facilement des places pour leurs enfants ? Point d'interrogation. Et n'oublions pas que les enfants hospitalisés ou en rééducation, et d'après les chiffres du ministère de l'Éducation nationale, ils sont environ 11 000 élèves par an qui sont scolarisés dans les établissements hospitaliers et sanitaires. Et le parcours scolaire continuera soit par le déplacement d'enseignants publics ou par le CNED. Qu'est-ce qu'il manque, en fin de compte, pour recevoir ces enfants dans les écoles ? Parce qu'effectivement, les classes ULIS, on peut le voir, il y en a parfois dans les grandes villes, où il y a une classe ULIS dans plusieurs écoles élémentaires. Et dès qu'ils arrivent au collège, il ne reste plus qu'une classe ULIS. Donc on fait quoi ? Il est là le problème. Quel est le gros manque, en fin de compte ?
Les sous.
Les sous ? Donc pas de moyens.
Pas de moyens.
Et puis, manque de structure aussi, parce que des ULIS, il n'y en a peut-être pas assez.
Exact.
Et puis, il faut savoir aussi que dans les ULIS, ce ne sont pas les parents qui décident. Il faut que les enfants aient un dossier et il faut qu'ils rentrent dans les critères de l'ULIS. Alors, parce qu'il y a aussi, je veux dire, ce qu'on appelle les SECPA ou les ECPA,
oui, aussi.
Qui peuvent aider les enfants en difficulté scolaire. Bon, après, je veux dire, le critère de handicap d'admission est différent. C'est basé surtout, je veux dire, sur le quotient intellectuel. Encore faut-il qu'il y ait une psychologue scolaire qui ait fait un bilan ou que les parents aient payé un bilan pour avoir une notion de QI, de quotient intellectuel. Et puis, la deuxième chose, c'est que les ULIS, je veux dire, elles ont des critères très spécifiques. Donc, il y a des ULIS qu'on appelle TFC. C'est-à-dire troubles des fonctions cognitives. Il y a des ULIS qui concernent les enfants sourds ou les enfants avec déficience visuelle.
Alors souvent
les ULIS 10, il n'y en a pas.
Il n'y en a pas. Souvent, on se rend compte que les classes ULIS, c'est un mélange, en fin de compte, des enfants à besoins spécifiques. Mais les SECPA, c'est pareil. Les SECPA, ça arrivait au collège. Donc, effectivement, il n'y a peut-être pas assez de classes ULIS. Alors après, est-ce que dans les écoles privées, on trouve ce genre de dispositif ou pas ?
Ben, j'ai côtoyé, des parents qui ont leurs enfants dans des écoles privées, là, il y a peu de temps, la semaine dernière, parce que j'ai fait une information à la maison des parents sur le PAP, hein, le projet d'accompagnement personnalisé, et il y avait des parents qui avaient leur enfant scolarisé en privé, parce qu'ils n'avaient pas trouvé de solution. En public.
En public.
Il y en a eu, là, Jean-Paul II, non ?
Oui.
Il y a une classe 10.
Donc, il y avait justement, oui, en effet, autisme. Il y avait des parents qui étaient sur la structure Jean-Paul II à Compiègne.
À Compiègne.
Et il y a une structure où le PAP est respecté, il y a une ULIS et tout, et ça se passe très, très bien au niveau des aménagements scolaires. Et il y a une autre école privée, je ne saurais plus vous dire le nom, par contre, où le PAP a été arrêté entre le CM2 et la 6e.
Eh oui.
la sixième, mais normalement, ça doit poursuivre.
Ça doit poursuivre.
L'outil PAP, normalement, dès l'instant où il est mis en place, il va jusqu'aux études supérieures. Il n'y a aucune raison qu'il s'arrête. Même si on change de département ou si on change, je veux dire, de structure, de ville, si on déménage. Normalement, c'est quelque chose qui est remis à jour tous les ans, que l'on peut modifier, où on peut ajouter des aménagements, en enlever certains. Normalement, ça suit jusqu'aux études supérieures.
Quand le PAP, comme ça, est arrêté, ou les parents, ils ont un recours, mais auprès de qui?
Non, il faut qu'ils se débrouillent. Tout seul. Il faut qu'ils se débrouillent avec la direction de l'établissement qui n'a pas mis en place le...
D'accord, donc d'aller à l'éducation nationale, ça...
Ah ben, si vraiment, je veux dire, la direction d'établissement ne prend pas ça en charge et que les parents sont insatisfaits, il y a toujours le recours, oui, à l'inspecteur de la circonscription.
Quand même, okay.
Mais quand c'est en école privée, il n'y a pas de recours.
Oui, pas de recours, effectivement.
Surtout quand ce sont des établissements qui sont hors contrat.
Et Jean-Paul II est hors contrat? Je ne sais pas.
Là,
ils n'ont pas ouvert une école maternelle spéciale autiste, il me semble. D'accord. On va parler du centre de rééducation de Bois-Laris, puisque tu en as parlé tout à l'heure. C'est un centre de médecine physique et de réadaptation pour enfants basés à la Morlaix. Tu me corriges si je me trompe pas. Il accueillait des enfants de 3 à 18 ans en hospitalisation complète. Il y avait 52 lits et en hospitalisation de jour, il y avait 50 places. Ce centre géré par la Croix-Rouge devait fermer définitivement pour raison de sécurité. Mais finalement, un accord pas encore ficelé a été pris. Et pour l'instant, des discussions sont toujours en cours. Parce que effectivement, il y a le maire de la Morlaix, Nicolas Moula, et Monsieur Wörth, le député Eric Wörth, c'est ça, oui, qui ont un petit peu discuté avec la Croix-Rouge pour essayer de garder ce centre dans l'Oise, parce qu'on n'en a pas d'autres.
Non. Et non.
Et il n'y en a pas beaucoup en France.
Il n'y en a pas d'autres. C'est vrai que Bois-Laris, c'était un hôpital de jour. Là, il est fermé depuis mars quand même. Hein. Mars 2023. Donc, ça veut dire que les enfants qui avaient des pathologies motrices ont été replacés dans d'autres établissements si besoin d'établissements avec rééducation intensive. Ceux qui avaient besoin de rééducation un peu moins intensive font encore partie d'une prise en charge de l'équipe mobile de Bois-Laris qui existe toujours, qui va à domicile. Et tous les enfants qui étaient accueillis pour des troubles des apprentissages, bon, il y en avait une trentaine, sont tous retournés dans leur école ordinaire.
Et en
avec priorité, pour entrer dans une Ulysse quand il y avait de la place.
Et quand il n'y avait pas de place, ils allaient en classe ordinaire.
Classe où ils étaient avant d'être admis à Bois-Laris. Donc c'est vrai que les parents ont été obligés de rechercher des rééducateurs en libéral. Donc, pas simple du tout.
Et il y a d'autres centres comme Bois-Laris en France ou pas du tout? C'est le seul?
On va dire qu'en France, oui, on pourrait dire qu'il y en a d'autres, mais c'est très, très rare. L'avantage de Bois-Laris, c'était qu'il y avait une prise en charge, je veux dire, de consultation. On pouvait venir en consultation. Après, il y avait une prise en charge qui pouvait être avec internat ou externat. Et il y avait, je veux dire, une prise en charge sociale, scolaire, paramédicale, psychologique, et tout ça pris en charge. Les parents qui avaient un enfant à Bois-Laris ne payaient rien. Donc, je veux dire, avec la fermeture de Bois-Laris, c'est un gros, gros, gros souci pour beaucoup de familles. Même pour les enfants qui ont un handicap moteur, par exemple, le banc analytique de la marche, il était à Bois-Laris, le locomat, qui permettait, je veux dire, de faire des interventions un peu moins lourdes aux enfants et de récupérer, on va dire, une certaine marche. Pour le moment, c'est fermé depuis mars.
D'accord.
Donc là, c'est vrai qu'il y a eu plus ou moins des demandes, comme tu disais, Sylvie, du député, du maire de la Morlaix et autres. Et l'ARS, apparemment, je veux dire, aurait parlé de financer un peu les travaux. Ce sont des travaux qui sont lourds et qui coûtent très, très cher. Là, pour le moment, rien n'est mis en place.
Et il n'y avait pas moyen de trouver un autre local ou de...
Il y a eu des demandes, il y a eu des propositions, mais...
Non, ça satisfaisant.
C'est pas tout.
Voilà, c'est ça.
On ne sait que ce qui sort de certaines réunions, et après, ben, je veux dire, le candidaton et le report d'informations n'est pas toujours justifié, quoi. Mm-hmm. Pas toujours, enfin, c'est bien dommage, quoi, parce qu'il n'y en a pas d'autres dans l'Oise, et c'est vrai que ça...
Alors après, c'est vrai qu'on peut nous dire, vous êtes près de Paris.
Mais Paris ne prend pas.
Ne prend pas en charge parce que c'est pas, on fait pas partie de.
Paris éventuellement va accepter de prendre des enfants en consultation, par exemple au centre référent du langage à Debré ou au Kremlin-Bicêtre. Mais je veux dire, ça va s'arrêter là. Ça va être un bilan avec une consultation de neuropédiatre ou une consultation orthophonique et puis c'est tout. Ils feront pas une prise en charge.
Et puis là, il faut se déplacer à Paris, c'est plus
compliqué.
Ah oui,
mais ça, les parents, ils sont prêts à se déplacer au bout du monde.
Oui, c'est sûr, c'est sûr. C'est
donc,
sûr.
Là, maintenant, il y a quelque chose qui attire un peu les parents, c'est qu'il y a, une école pour les enfants 10. Sur Paris, il y en a trois. Il y en a une sur Lyon, il y en a une sur Marseille. C'est une école qui s'appelle le CEREN, qui fait les bilans et qui prend en charge les enfants. Mais bon, l'inconvénient, c'est que c'est un organisme privé et qui coûte très cher.
On tombe toujours dans le privé.
Voilà. Alors, ils essayent d'avoir une reconnaissance d'utilité publique. Mais c'est un peu le même principe que Boilaris, c'est-à-dire qu'ils prennent en charge, ils font un bilan neuropsy et rééducatif. Et ils accueillent les enfants et ça peut durer de 1 à 4 ans. Et dès que les enfants ont une autonomie, ils sont capables de réintégrer, on va dire, un système scolaire... tout ce qui est plus ordinaire, ils repartent et il n'y a plus de soucis.
Et par contre, là, dans les enfants qui étaient accueillis à Boilaris, c'était que des enfants de Picardie, du Hauts-de-France, ou alors ça venait un peu de toute la France?
On ne va pas dire de toute la France, mais ça vient quand même parfois, ça vient déjà de toute l'Oise. Parfois, ça vient du Val d'Oise.
Ah, du Val d'Oise, oui.
Et parfois de plus loin, mais carrément des dom-toms.
Ah oui.
Ça peut arriver. Il y a aussi des enfants, je veux dire, qui sont opérés sur Amiens et qui viennent en rééducation, qui venaient en rééducation. Voilà. Donc, mais ça, c'est très ponctuel.
Ponctuel, voilà.
Ouais. Donc, on croise les doigts. Quand c'est du post-op, on croise les
doigts
pour
essayer de sauver au moins ça.
Au moins
pour aider,
ça,
aider
ouais.
les enfants. Hein. Voilà. J'en suis où? Ah oui, donc on va passer peut-être directement, on va faire parler un petit peu Hélène. La PEP de Crépy en Valois s'est impliquée à sa manière dans un projet inhabituel pour une association de parents d'élèves, la bibliothèque inclusive. Comment est venue cette idée? C'est quoi cette bibliothèque inclusive? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
Alors, comment est venue cette idée? On est juste d'avoir nos locaux, puisque maintenant, depuis 3 ans, on a nos locaux sur Crépy.
Ils sont où exactement? Donne l'adresse. Comme
ils sont 74 rue de Soissons, pas très loin de la passerelle. En fait, vous continuez au bout de la rue, vous arrivez dans nos locaux. Il y a une grande affiche PEP. Enfin, voilà. Alors, comment est venue cette idée? Encore une fois, grâce à Françoise... Elle ne le savait peut-être même pas, c'est qu'il y a 3 ans, je suis allée à sa journée des 10 à Senlis, je crois, et il y avait la représentante de GIA, une association en fait, qui regroupe tous les livres en fait, qui traitent du handicap, qui les référencient et qui leur but, c'est de s'installer dans les médiathèques partout en France, pour qu'il y ait au moins un coin inclusif dans une ville, voilà. Et moi, je lui ai dit, mais nous, on n'est pas du tout médiathèque, on ne sait pas faire. Puis, comme j'avais été enseignante et que j'avais eu tous ces problèmes, le projet a commencé à germer dans ma petite tête. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas lancer, puisque la PEP, en tant qu'association de parents d'élèves, il y a deux sujets, comme dans l'éducation nationale, l'inclusion et le harcèlement. Et je pense que pour éviter parfois des situations de harcèlement qui peuvent aller très loin, l'inclusion, c'est important parce que les moqueries que les enfants peuvent subir parce qu'ils sont différents, que ce soit le handicap ou autre chose, mènent au harcèlement. Et donc si on ne traite pas des deux manières ensemble, si on ne prend pas le problème par la racine, puis en plus c'est des mots qui sont un peu à la mode. On fait des conférences sur l'inclusion, on fait des conférences sur le harcèlement. Mais derrière, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour la chose, en fait? Donc, on s'est dit, bah, on va aller voir ce que l'association GIA nous a proposé. Et puis, je suis allée fureter à droite, à gauche, des livres. Et puis, au fur et à mesure, on a monté notre petit espace. Alors, pas UJA, parce que pour nous, l'inclusion, c'est pas que des livres sur le handicap. C'est des livres pour tout le monde, pour chaque enfant. On a créé des petits bacs, on en a fait d'autres par rapport à UJA. On a rajouté une boîte à outils, parce que pour les enseignants, pour les parents qui voudraient...
Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte à outils?
Dans ces boîtes à outils, on a des livres, la dyslexie, qu'est-ce que c'est? On a des pistes pour les enseignants. On a récemment, là, il n'y a pas longtemps, j'ai trouvé une BD, c'est « Je suis 10 », mais c'est une bande dessinée « Je suis 10 ». Dans une bande dessinée pour enfants, on explique la journée d'un... Enfin, plein de choses, en fait. Il y a plein de... Voilà. Et on a également fait un petit rayon qui s'appelle « Sensibilisation à la différence », où dedans, on parle de tout ce qui ne devrait pas être la différence, en fait. Que ce soit le handicap, que ce soit le genre, que ce soit la couleur. Enfin, voilà, c'est arrivé à un moment donné. On est en 2023. Et je pense que plus on éduque jeune... Enfin, le but, c'est que l'inclusion, en fait, derrière tous ces problèmes de handicap, qu'il y aurait ou d'autres, bah, que les enfants soient un peu plus tolérants, déjà, et que ça amènerait moins de...
De problèmes par la suite.
Au niveau du harcèlement. C'est, moi, j'étais enseignante en collège et on n'imagine pas, honnêtement, parce que j'étais enseignante sur le tard, j'imaginais pas que nos enfants puissent subir autant de violences qui ne semblent pas violences, parce qu'on se moque un petit peu.
Oui, parce que la violence, quand ce sont des coups, ça se voit, mais les paroles, ça s'imprègne en soi.
C'est ça. Et j'ai fait avec mes élèves, j'avais des élèves de 5e, on faisait des sensibilisations au cyberharcèlement ou des choses comme ça, parce que... Et justement, ça passe par... en fait, tout le monde, il devrait pas, le mot handicap, le mot discrimination, ça devrait même pas exister, quoi. Alors ça, c'est le monde idéal, vous allez me dire. Mais je pense que si les enfants, dès petits, avec des petits livres, se rendent compte... qu'en fait, on peut avoir un copain handicapé sans forcément se moquer de lui. Moi, j'avais un élève, je vais la faire courte, il bégayait. Et j'étais toujours étonnée qu'il ose prendre la parole en public. J'ai dit, c'est génial, devant la classe, il n'a pas honte. Puis un jour, je ne l'entendais plus. Tiens, c'est bizarre. Et puis j'ai jusqu'à une petite copine qui m'a dit, madame, on le traite de Robocop, on le tape parce qu'il bégaye. Donc là, quand on est enseignant, qu'on entend ça, je pense que il faut faire quelque chose. Donc, je les ai mis en situation. Ça, je ne dis pas que ça a réglé le sujet, mais de mettre des mots sur des choses, on peut aider aussi de cette façon-là. C'est aussi le rôle de l'enseignant. Quand on est prof et qu'on voit un enfant qui change de comportement, on essaie de savoir pourquoi. Mmh. Voilà. Voilà notre but.
Et donc, tu avais fait une journée porte ouverte. Hein. Bon, on s'est retrouvés avec Françoise Gérard. À cette porte ouverte. Et donc, quelle a été la réaction des services de l'éducation nationale, de la mairie, de tes partenaires? Est-ce que ça a été bien reçu? Est-ce qu'ils ont été étonnés de cette idée?
Alors, moi, ce qui m'a surprise, c'est les représentants de l'éducation nationale, parce qu'on a quand même eu l'inspecteur du handicap de Beauvais qui est venu à notre inauguration. Il y avait Madame Mascara, qui est l'inspectrice académique, enfin de. Sur Crépy.
De circonscription.
Voilà, j'ai oublié le nom. Qui nous ont fait l'honneur d'être là, hein, parmi d'autres. Et effectivement, je les ai observés quand même pour voir leur réaction. Et ils étaient agréablement surpris de voir qu'il y avait autant de ressources disponibles, parce qu'on a mis quand même le paquet pour avoir des ressources, et diverses et variées. Et Madame Mascara nous a demandé de préparer un petit flyer, si on était OK, pour qu'elle distribue à tous les directeurs d'école à la pré-rentrée. Voilà, donc maintenant, bon, faut le temps que ça démarre. Mais j'ai trouvé ça intéressant, et surtout d'être, on va dire, de la part de... J'ai une bénévole qui est infirmière scolaire, elle nous a dit, vous avez fait le buzz... dans les réunions d'éducation nationale, la semaine qui a suivi notre inauguration. Voilà. Parce qu'ils sollicitaient les enseignants en disant qu'ils avaient à disposition des moyens. Et nous, chaque jour, on essaie de, comme ce que disait Françoise, On fait des mallettes, ce qu'on appelle des mallettes pédagogiques. On est en train d'en préparer une qui s'appellerait, je ne sais pas encore comment, où dedans, on a une professeure des écoles en Ulysse qui nous donne, tiens, ça serait bien, parce qu'ils n'ont pas de moyens. Et donc, peut-être qu'en leur proposant des outils, ah bah tiens, ça c'est bien, c'est adapté, et peut-être après envisager un achat, ils achèteraient, plus que, des fois, il y a des outils qui servent, enfin, qui sont pas adaptés. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire à notre, on va dire...
Niveau.
Voilà.
D'accord. Et est-ce que vous avez d'autres projets au niveau de la PEP, Crépy, pour valoriser votre engagement auprès des enfants à besoins spécifiques? Vous avez d'autres idées, à part les mallettes? Est-ce que vous en avez déjà parlé ensemble avec Françoise ou pas du tout? Jamais?
Moi, j'ai... On a aussi au niveau de l'association, là, je complète ce que vient dire Hélène au niveau des mallettes. L'association a mis en place aussi, nous la mallette est devenue une malle.
C'est un peu lourd.
J'ai commencé par une trousse 10, donc c'est-à-dire une trousse où on a à l'intérieur, je veux dire, des crayons adaptés, où on a une gomme adaptée, où on a un stylo gaucher, un stylo droitier, où on a une règle avec une poignée, où on a une équerre adaptée, où on a un thermographe, enfin bref, tous les outils qui peuvent aider, je veux dire, au travail purement scolaire. Ça, on a commencé par la trousse. Et puis après, je me suis dit que dans les outils, c'était très utile quand même d'avoir une réglette scanner et une souris scanner. Il y a beaucoup d'enfants de collège maintenant, je veux dire, qui gagnent en temps et en énergie le fait de pouvoir scanner tous leurs cours. Ils n'ont pas besoin de copier. Je veux dire, c'est un gain de temps et en plus, c'est une facilité, je veux dire, à retrouver ses cours et à pouvoir lire des cours qui sont bien écrits, parce que la photocopie avec le cours du voisin,
c'est pas terrible.
Le cours du copain, c'est pas toujours terrible, parce que le copain, il n'a pas forcément toujours la bonne écriture et la bonne orthographe. Donc voilà, donc on y a ajouté ça. Puis après, on s'est dit, c'est bien gentil tout ça, on met des outils, mais il faudrait peut-être qu'on mette les tutos pour que tout le monde puisse utiliser les outils de manière convenable et de savoir à quoi ça pourrait être utile. Bon, ensuite, bon, là, je suis en train de faire, je veux dire, carrément un classeur outil, ce que je faisais moi déjà dans ma classe, mais un classeur outil avec des fiches pédagogiques. Donc, où il y a, je veux dire, des aides, ce que j'amène à la journée 10, je veux dire, pour des mémos, pour des fiches, pour des gabarits d'opérations, pour des tas de choses, des trucs concrets pour les enseignants. Donc là, évidemment, ça... Après, bon, il y a aussi tous les enfants qui ont des troubles de l'attention. Donc, il y a une barrière anti-bruit, c'est-à-dire qu'on pose ça sur la table et on est isolé, ça permet de travailler. Il y a un casque anti-bruit, il y a un élastique pour mettre au pied des chaises pour qu'on puisse gigoter autant qu'on veut. Il y a des choses comme ça pour aider les enfants à se concentrer. Un time timer, par exemple, c'est une espèce de... on va dire de réveil, de minuteur, hein, comme pour faire cuire vos œufs, hein, c'est la même chose. Mais là, c'est pour dire aux enfants, tu vois, on va faire des maths. Là, tu vois, il est mis sur 15 minutes. On commence là, on arrête là. Les enfants ont besoin de ça. Et là, je ne parle pas que des enfants 10.
Oui,
tous les enfants ont besoin de savoir quand ça commence et quand ça va finir. Quand ils ne savent pas où est la fin, ils angoissent. Mm. Parce qu'ils ne savent pas quand ça va s'arrêter. Et c'est valable pour toute activité, même une activité sportive. Si on leur demande de faire un effort, si on leur demande de courir, courir où et courir jusqu'à quand? Donc, et les activités scolaires, c'est la même chose. Alors que quand ils savent quand il faut s'arrêter, ils vont donner toute leur énergie, ils vont faire des efforts. C'est pas pour ça qu'ailleurs, ils n'en font pas d'efforts. Hein. Donc voilà, donc nous, on est en train de faire ça. Mon objectif, c'est qu'il y en ait une fixe, qui puisse être déplacé dans un CCAS, dans une mairie, dans une école et autres, et l'autre qui soit mobile, c'est-à-dire qu'elle puisse
aller
aussi,
de classe en classe, voilà, d'école en école.
Que les enseignants puissent avoir le temps de tester et que tous les enseignants soient au courant de tout type de matériel, enseignants et parents.
Et là, je crois que c'est le plus difficile, en fin de compte, peut-être, de faire connaître qu'il y a des mâles et qu'ils existent.
Bah oui,
au niveau de la publicité, quoi, je veux dire,
il va falloir faire de la communication puis de la présentation, je veux dire, de...
En parlant de communication, quand même, excuse-moi,
oui,
tant que j'y pense, parce que j'ai oublié, on est quand même bien soutenu par la mairie, qui nous aide dans notre communication, qui, il faut le savoir, depuis notre inauguration, a fait un petit chemin en dur pour arriver depuis la passerelle où le cyprès arrête pour que les enfants, les parents, même en situation de handicap ou pas, puissent accéder quand même jusqu'à nos locaux. Donc on est voilà, c'est il y a des projets qui vont se faire. Donc ça sera l'objet de
d'une autre émission.
Voilà. Mais il y a des beaux projets qui vont se faire sur Crépy et c'est bien de voir que
en fin de compte, c'est un travail en commun qu'il faut faire, les parents, les associations, l'inspection académique, les services du département pour améliorer tout ça, toutes ces prises en charge. C'est pas facile, mais on va y réfléchir tous ensemble.
Et la proviseure du lycée Jean Monnet qui vient d'arriver, elle a l'air très motivée aussi.
Très motivée aussi.
Notamment pour la lutte contre le harcèlement, parce que ça, c'est quand même un gros...
C'est notre prochaine émission, donc voilà.
C'est horrible. Voilà.
Alors, moi, j'ai une petite question. Savons-nous réellement prendre en compte les besoins d'un enfant face à ses difficultés, ses souffrances, ses émotions, face à son manque d'autonomie et de confiance? Et moi, je pense souvent, et on en a parlé tout à l'heure, avant le début de l'émission, le rythme de l'enfant. Est-ce que tu peux nous toucher de petits mots sur le rythme de l'enfant? Ça, c'est très intéressant parce que souvent, nous, adultes, on n'y pense pas ou on n'en fait pas cas.
J'essayais d'être brève.
On a encore un peu de temps.
Non, je veux dire, le rythme de l'enfant...
Handicap ou pas hein?
Handicapé ou
oui,
pas
oui, bien oui, sûr. Oui, bien sûr. Excuse-moi, j'ai oublié de
moi,
dire.
Moi, je parle d'un enfant.
Un enfant.
Un enfant. Bon, déjà, il faudrait peut-être admettre qu'un enfant n'est pas un élève à la base. Un enfant est un enfant. Mm. Donc, c'est vrai que quand il arrive à l'école, il faut qu'il devienne élève, là. Du jour au lendemain, crac, on s'assoit, on ne bouge plus, on se tait, on fait attention aux autres... Bon, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'éducation à la maison, mais c'est quand même pas la même chose. Je veux dire, il y a l'amour des parents et... Bon, moi, j'ai mis mes élèves comme mes enfants, mais bon, tout le monde n'est pas pareil. Je veux dire qu'il y a ça. Alors, respecter le rythme, c'est un peu ça. C'est ne pas oublier, je veux dire, quand il arrive à l'école, que c'est un enfant qui a eu une vie avant 8h30. Il y a eu quelque chose. Il y a des fois, il y a des choses... importante qui se passe, et à 8h30 ou 9h, les enfants ne sont pas dispo, pas capables, mais c'est pas une question de compétence, c'est qu'ils ont vécu des choses qui parfois sont difficiles, qui ne leur permettent pas de se concentrer sur des apprentissages scolaires. La deuxième chose, c'est que les apprentissages scolaires ont quand même, je veux dire, un décalage entre l'école et la société. Il y a un décalage. Donc il y a des choses que l'on fait à la maison, dont on parle à la maison, dont on ne parle pas à l'école. Et les apprentissages scolaires restent quand même très, très universitaires, avec certaines compétences qui doivent être admises à tel âge ou dans telle classe. Il y a beaucoup de cases dans l'éducation nationale.
Bon. Il y a surtout un programme trop lourd,
trop chargé.
À respecter.
Trop chargé, voilà c'est ça.
Donc l'enseignant qui veut respecter son programme, il trace.
Bah, il court après le temps.
Exactement.
Moi, je trouve aussi que le programme, mais bon, on n'est pas responsable des programmes éducation nationale, je trouve aussi qu'il est très dense, qu'on demande des choses très compliquées, je veux dire, sur le plan cérébral, sur le plan d'apprentissage, que les enfants sont trop jeunes parfois pour apprendre certaines choses. Mais bon, ça, c'est mon opinion personnelle. Donc, respecter le rythme, c'est difficile, parce qu'il y en a qui vont très, très vite, il y en a qui vont très lentement, et ceux qui vont très lentement, souvent, ils ratent le coche, quoi. Il n'y a qu'à regarder, je veux dire, l'exemple du cours préparatoire de l'apprentissage de la lecture. Normalement, les enfants sont compétents de 5 à 9 ans dans l'école française. On fait du pré-apprentissage en grande section.
Tout à fait.
Et en 9 mois, il faut apprendre à lire. C'est-à-dire que en 9 mois de CP. Si on vous demande, vous, en tant qu'adulte, d'apprendre une langue étrangère en 9 mois, je ne sais pas si ça sera si simple et si rapide. Donc, au lieu d'étaler l'apprentissage, on prend comme acquis que tout enfant qui sort du CP est un lecteur. Non. Non. Il a appris les bases, il a appris les mécanismes, mais ce n'est pas un lecteur.
Ben, ça reflète la société. Hein. On demande d'aller de plus en plus vite et on demande exactement la même chose aux enfants. Quoi. Il est là le problème. Je crois qu'il est là.
Puis je pense qu'on rate le coche aussi, je veux dire, l'apprentissage de la lecture. Après, on dit qu'il y a des enfants au collège qui ne savent pas lire.
Ah, t'as écouté Gabriel Attal
Oui, mais je trouve qu'il a... malheureusement, je veux dire, il y a très longtemps qu'on sait qu'au collège, il y a des enfants qui rentrent au collège en sixième et qui ne savent pas lire. Mm. Mais un constat, c'est bien. faire quelque chose pour que ça n'arrive pas avant, ça serait peut-être aussi bien.
Alors, on fait comment avec ce rythme de l'enfant? Donc, à 8h30, 9h, tu dis faut pas passer tout de suite à l'apprentissage de quelque chose de difficile. Bon, en général, c'est ce que font les professeurs. Hein, ils y vont doucement. Mmh. Et le meilleur moment de la journée pour un enfant pour apprendre?
Ah, ça dépend des enfants et ça dépend aussi de la manière
d'enseigner. Ça dépend de l'enseignant aussi.
Ça dépend de la pédagogie qu'on met en place. Hein.
Exactement.
Alors, une dernière question, parce que je vois qu'on me fait signe tout le temps. Comment donner une image positive de l'handicap? Comment parler sans offenser? Comment faire comprendre qu'un enfant ayant un handicap doit être respecté dans les cours de récré à la sortie de l'école face au regard des adultes aussi? Alors là...
C'est ça, les adultes aussi.
Bah, de toute façon,
en trois mots.
Moi, je vais dire quelque chose qui choque un peu. Le fait qu'on soit obligé de faire des projets et des lois pour l'inclusion, ça veut dire qu'il y a une exclusion. Moi, ça me dérange un peu.
C'est la question que je posais au départ. Voilà.
Donc, ça me dérange un peu. Ça veut dire que si on est obligé d'inclure, c'est qu'il y a une exclusion quelque part. Donc, moi, c'est ce que je disais au départ. Il faut rechercher l'équité. C'est pas la situation de handicap. Il faut rechercher l'équité. Il faut respecter, je veux dire, le rythme, les capacités, les compétences, etc. Et c'est vrai que il faudrait remanier l'enseignement et la manière d'enseigner et la formation des enseignants.
Et ne pas fermer les yeux quand on voit des choses, des petits mots, des petites choses
c'est
qu'on
ça,
dit.
C'est réagir tout de suite.
C'est de réagir tout de suite. Tu arrêtes ton cours et tu en parles.
Donc, en fin de compte, les cours d'empathie que veut mettre en place notre nouveau ministre de l'Éducation nationale, il faudrait les faire aussi pour les adultes, pour les parents peut-être aussi.
Oh, peut-être.
L'empathie, il ne devrait pas y avoir un cours d'empathie.
Oui, c'est
ça devrait être naturel, en fait. Enfin,
non, mais c'est changer le regard de la société.
Non, mais c'est ça.
C'est le respect de la différence, simplement. Hein, on est actuellement, dans des situations racistes, antisémites et autres. Je veux dire, ça aussi, c'est un respect de la différence. Bon, je veux dire, c'est un peu extrapolé, mais...
D'où notre ion, sensibilisation à la différence.
La différence, voilà. Alors, faut-il attendre une énième loi sur l'inclusion scolaire?
Non. Déjà appliqué, celles déjà qui sont...
Voilà, qui sont...
Oui, et puis c'est une question de bon sens,
De bon sens, tout à fait. Tout à fait. Admettons, s'il fallait faire une nouvelle loi, pourquoi pas, quelle serait votre plus grande suggestion en 2 minutes? En 2 minutes, et Luc me fait signe que vous avez...
2 minutes.
Allez, les filles.
Peut-être que les enseignants soient un petit peu mieux formés, parce qu'on leur tire mais ils sont démunis,
Ils sont démunis complètement.
Pas dans leur parcours. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait une reconnaissance des politiques un peu plus conséquente, et plutôt que de faire toujours des constats d'échec. Ah. Et c'est bien gentil de faire des constats d'échec,
mais ça n'avance rien.
Je veux dire, moi, mon projet, c'est qu'il y ait une maison 10, je veux dire, dans l'Oise. Ils ont fait des maisons de l'autisme, ils font des maisons du handicap. Il faudrait faire une maison 10 où il y aurait, je veux dire, le bilan, la prise en charge, je veux dire, des enfants avec un bilan, un diagnostic, une prise en charge et puis une aide pour les familles, quoi, savoir à qui s'adresser, quand s'adresser et comment faire.
Mais pour cette maison 10, tu as besoin de quoi, de qui? Allez.
Il faudrait déjà, je veux dire, avoir un local.
Un local, tout simplement.
Un local qui permettrait, je veux dire, de faire des vacations avec des professionnels pour faire des bilans, et puis faire une médiadiste, et puis après, ça serait déjà beaucoup.
Voilà, je crois que c'est le mot de la fin. Merci beaucoup.
Eh bien, notre émission se termine. Je remercie chaleureusement Hélène et Françoise d'être venues nous voir dans le studio.
Merci de nous avoir invités.
Cette émission Pédagorando sera diffusée pendant le mois de décembre, le vendredi 8 à 19h, le lundi 11 à 16h30, le samedi 23 à 17h et le mercredi, pour ceux qui n'arrivent pas à dormir, 27 à 2h du matin. Le prochain thème sera harcèlement et phobie scolaire. Merci à Luc, à la technique. Chers auditeurs, si l'éducation des enfants et l'avenir des jeunes vous intéressent, n'hésitez pas à nous rejoindre et venez donner votre opinion à l'antenne. Contactez-nous par courriel sur le site de RVM à www.radio-6valois-6mulsien.fr. Au revoir.
Au revoir.
Merci.
Ils sont marrants cette année. C'est difficile de deviner dès la rentrée lequel se fera arrêter pour les scouts qu'il aura piqué, lequel sera incarcéré pour avoir trop dealé. Moi en bon prof, je suis préparé. Un peu de maths et de français, du kickboxing, du karaté. Tant pis pour la géographie, ceux qui connaissent de l'Italie, c'est juste vaguement les spaghettis et Rocco Siffredi. Au programme de cette année, en français faudrait arriver à lire tout un livre en entier. Mais même d'un moment, on est Marc Lévy, y'a plus de 100 mots de vocabulaire. On sera toujours à lire la préface, même après l'hiver. Et mon voisin me voyant me dira bande de filles.